tout de suite le journal.
Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. L'action de la Deutsche Bank est en net rebond ce soir. La justice américaine serait en passe de diviser par 3 l'amende record de la première banque allemande fragilisée ces derniers mois. La correspondance de Cyril Sauvageau à Berlin est à suivre au début de ce journal. Nous irons aussi à Bruxelles où l'Union européenne ne veut pas passer à côté de l'histoire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une procédure accélérée est mise en place pour adopter rapidement l'accord de Paris sur le climat. Enfin en France, nous reviendrons sur la lutte qui oppose la mairie FN d'Ayange en Lorraine au Secours Populaire et nous irons au Salon de l'Automobile à Paris. Il ouvre ses portes au public. Demain, nous serons avec Hakim Kasmi et notre invité François Roudier, porte-parole des constructeurs français automobiles pour un décryptage des nouveautés. C'est un accord en voie de finalisation qui a rassuré les marchés ce soir. Les États-Unis auraient décidé de réduire le montant de l'amende record imposée à la Deutsche Bank pour solder un litige immobilier qui date de la crise financière de 2008. À Berlin, la correspondance de Cyril Sauvageau.
L'accord n'est pas encore officialisé, il ne le sera pas avant le début de semaine prochaine, mais à Francfort, c'est déjà le soulagement. La Deutsche Bank a peut-être évité le pire grâce à ce compromis trouvé avec les autorités américaines. Le montant final de l'amende, 5,4 milliards de dollars au lieu des 14 milliards réclamés au départ, paraît plus réaliste. Il est conforme à ce que la Deutsche Bank avait provisionné dans son budget. À la bourse de Francfort, cette annonce a suffi à faire bondir immédiatement l'action, repartie à la hausse, plus 8%, au terme d'une journée noire où elle était tombée pour la première fois sous la barre des 10 euros. Ce deal avec les États-Unis ne règle pas pour autant tous les problèmes. Loin de là, la mauvaise santé chronique de la Deutsche Bank continue d'inquiéter les milieux financiers. Confrontés à d'autres litiges juridiques très coûteux et empêtrés dans des problèmes de structure, l'ancien fleuron du système bancaire allemand reste sous haute surveillance. Mais pour les autorités allemandes, l'hypothèse d'un plan de sauvetage s'éloigne. Une épine dans le pied en moins pour Angela Merkel. La chancelière et son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, voulaient éviter à tout prix d'engager l'État dans un plan de secours qui serait contraire aux règles de restructuration des banques mises en place après la crise financière.
L'Union européenne ne voulait pas être à la traîne sur la scène mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les 28 États membres ont donné leur feu vert cet après-midi pour une ratification accélérée de l'accord de Paris sur le climat. C'est maintenant au Parlement de Strasbourg de se prononcer, ce qui sera fait mardi prochain. À Bruxelles, les précisions de Johanna Hochstein.
Ce que certains croyaient impossible est désormais une réalité. C'est par ce tweet que le président du Conseil européen s'est félicité de l'accord obtenu par les ministres de l'Environnement. Il est vrai qu'il y a encore un mois, il n'y avait quasi plus personne pour croire à une application rapide du texte. Des 20 pays les plus riches sur la planète, seule la France avait ratifié l'accord. Mais les choses se sont accélérées avec la ratification de la Chine et des États-Unis. Pour pouvoir rester dans la course et participer aux négociations sur les modalités d'application de l'accord de Paris, l'Europe a donc décidé d'accélérer son calendrier. Pour rappel, l'accord de Paris devait être ratifié conjointement par l'Union européenne en tant qu'entité et par ses États membres avant le 7 octobre. Or, à ce jour, seuls 5 États membres ont terminé le processus. L'accord trouvé aujourd'hui permet donc de ne pas bloquer la machine, mais il aura fallu lever un certain nombre d'inquiétudes, souligne Ségolène Royal, ministre française de l'écologie.
C'est pas quelque chose qui était gagné d'avance, parce qu'il y a des modèles énergétiques très différents d'un pays à l'autre. Donc il a fallu rassurer les uns et les autres tout en restant extrêmement exigeants et fermes sur les objectifs que l'Union européenne s'était fixés de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030.
C'est maintenant au tour du Parlement européen de donner son feu vert pour que l'Union européenne puisse définitivement ratifier l'accord. Une étape importante parce qu'elle permettra d'atteindre le seuil des 55% d'émissions de gaz à effet de serre, un préalable nécessaire à l'entrée en vigueur de l'accord de Paris.
En Syrie, l'ONU a mis en place ce soir une commission d'enquête pour faire la lumière sur l'attaque aérienne contre un convoi humanitaire qui a fait au moins 18 morts en début de semaine dernière au nord du pays. Par ailleurs, la coalition internationale bombarde ce soir plusieurs ponts dans la région de Deir ez-Zor à l'est du pays. Il s'agit de limiter les mouvements du groupe État islamique près de la frontière avec l'Irak. L'Irak, où la coalition internationale toujours se prépare à l'offensive pour reconquérir Mossoul, dernière place forte de l'État islamique. Dans le pays. 8 avions de chasse Rafale ont été déployés ce matin depuis le porte-avions français Charles de Gaulle qui stationne en Méditerranée orientale. Une pierre à l'édifice international qui est en train de se mettre en place, Éric Bigala.
Le déploiement du Charles de Gaulle sur zone est prévu pour durer un mois, en gros le mois d'octobre. Il y a donc fort à parier que l'offensive finale contre Mossoul, la capitale irakienne de l'État islamique, sera lancée ces prochaines semaines, peut-être même ces prochains jours. Les Occidentaux, l'armée irakienne et les Peshmerga kurdes fourbissent tous leurs armes en préparation de cet assaut. Les Américains viennent d'annoncer le déploiement en Irak de 600 soldats de plus, portant à plus de 5000 hommes leur présence sur le terrain irakien. De l'artillerie américaine a également été récemment déployée en prévision de l'assaut sur Mossoul, notamment des lance-roquettes HIMARS à longue portée et très forte précision. Les Français ont également disposé en appui 4 batteries de canons automoteurs Kaiser, non loin de Mossoul. Et puis il y a depuis hier la présence donc dans le ciel des 24 appareils d'attaque du Charles de Gaulle. En fait, la guerre contre l'État islamique à Mossoul a même déjà commencé d'une certaine manière, puisque les appareils de la coalition, avions ou drones, opèrent régulièrement des frappes précises visant spécifiquement l'un ou l'autre commandant militaire ou cadre administratif de l'État islamique, et ce en pleine ville. Avant-hier, le porte-parole de la coalition internationale précisait même que 13 de ces cadres avaient ainsi été neutralisés par des frappes aériennes à l'intérieur même de Mossoul durant le mois écoulé. Mais pour que la bataille de Mossoul puisse effectivement s'engager, il faut en fait que les troupes au sol, c'est-à-dire l'armée irakienne et les Peshmerga kurdes, soient à pied d'œuvre, positionnées sur des bases d'assaut suffisamment proches. Pour les Peshmerga, c'est chose faite depuis longtemps. Pour l'armée irakienne, qui sera le véritable fer de lance de l'offensive, c'est encore en cours. Les soldats irakiens ont tout de même réussi à reprendre la semaine dernière la ville d'Al-Shirkat à l'État islamique, et ce en 3 jours. C'était la toute dernière localité importante tenue par les djihadistes sur la rive occidentale du Tigre avant Mossoul.
Précision signée Eric Biegala. En France, un homme de 29 ans a été condamné ce soir pour incitation au terrorisme au tribunal correctionnel de Paris. Il écope de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. La messagerie cryptée Telegram a été au centre de ce procès puisque le prévenu s'en est servi pour inciter un de ses correspondants à commettre un attentat. Le Parti Socialiste et le Parti Communiste ont réagi à la lutte qui a opposé aujourd'hui la mairie Front National au Secours Populaire à Hayange, en Lorraine. Le maire frontiste Fabien Engelmann a tenté d'expulser ce matin l'association caritative de son local avec un huissier de justice. L'élu accuse les bénévoles de faire, je cite, de la propagande pro-migrant. Le PS dénonce une nouvelle illustration de la politique pauvrophobe du Front National. Le FN dévoile de nouveau son vrai visage, ajoute le PCF. Louis-Valentin Lopez, vous nous résumez ce conflit et cette journée.
Une association qui mène une propagande pro-migrant, une succursale du Parti communiste, c'est la liste non exhaustive des expressions employées par Fabien Engelmann pour désigner le Secours populaire d'Hayange.
Nous avons affaire à des militants politiques qui continuellement font la promotion de l'immigration illégale en France. Si le Secours populaire est une succursale du Parti communiste, il suffit de le dire.
Alors ce n'est pas la première fois que le FN entre en conflit avec le Secours populaire. En décembre, le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, avait interdit à l'association de tenir un stand sur le marché de Noël. Mais c'est la première fois, selon Julien Loprêtre, le président du Secours populaire, que la méthode est si violente.
J'emploie le terme fasciste vraiment à bon escient, parce que c'est tellement vrai que son projet, c'est d'expulser le Secours populaire, mais en même temps d'introduire une association dont la devise est seulement pour les Français.
Cette association s'appelle Fraternité Française. Elle aurait les faveurs de la municipalité pour prendre la place du Secours populaire. Sa présidente, Mireille Dornano, eurodéputée FN, paradoxal pour un maire qui souhaite dissocier vie associative et politique. Alors, huissier ou pas huissier, Anne Duflo-Alievi, la présidente du comité local, ne compte pas se laisser faire.
Huissier, je lui ai dit non, je ne vous remets pas les clés. Elle dit bon, mais c'est tout, voilà, je vais faire un constat. Voilà, au revoir. On a les soutiens donc de la Fédération de Metz, du National, on prendra toutes les mesures qu'il faudra pour faire face à ça.
Alors en 2016, sans doute signe avant-coureur de l'expulsion, l'association n'a pas touché de subvention. La mairie prétend qu'aucun dossier n'a été déposé. Le Secours populaire, lui, affirme qu'il n'a pas été traité.
L'invité du journal de 22h, c'est François Roudier, le porte-parole du comité des constructeurs français automobiles. Le mondial de l'auto ouvre ses portes demain à la porte de Versailles à Paris. Après les années de crise, le secteur bénéficie d'une embellie et les constructeurs s'adaptent de mieux en mieux à la révolution numérique. Hakim Kasmi, nous vous retrouvons, vous êtes sur place.
Bonsoir Anne, effectivement nous sommes ici au Mondial de l'Automobile qui ouvrira ses portes demain à Paris. Nous sommes en compagnie de François Roudier. François Roudier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole du CCFA, le Comité Français des Constructeurs Automobiles. Alors, que pourront voir les visiteurs à partir de demain dans ce mondial?
Dans ce mondial, on a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, des nouveaux modèles, des gammes complètement renouvelées. Je pense à la gamme Renault, mais vous allez aussi chez Peugeot voir les nouveaux 3008, 5008, chez Citroën, nouvelle C3. Donc on a énormément de nouveaux modèles. Et ce qui va être extrêmement intéressant aussi, c'est que vous voyez la voiture de demain, la voiture connectée, qui va jusque vers la voiture autonome, et certaines choses sont déjà commercialisables.
Alors effectivement, on parle beaucoup de voitures autonomes, on l'a vu, les constructeurs comme PSA par exemple, qui annoncent une voiture autonome à partir de 2020, voire 2025. Aujourd'hui, c'est une véritable révolution. Concrètement, ce n'est plus un rêve, la voiture autonome aujourd'hui?
Non, ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus un rêve parce que les aides à la conduite, hein, tout ce qui entre dans ce qu'on appelle la connexion dans l'automobile, c'est-à-dire les systèmes qui vont détecter des piétons, où la voiture va s'arrêter toute seule, tous ces systèmes-là, progressivement, font avancer étape par étape vers des véhicules qui seront capables de prendre la main sur vous et d'être meilleurs que vous, et donc de conduire de façon autonome.
Alors, il y a la voiture autonome, ça c'est l'avenir, mais il y a ce qu'on appelle aussi les voitures semi-autonomes, avec aujourd'hui des systèmes qui permettent par exemple de pouvoir ralentir s'il y a un véhicule devant ou s'il y a un obstacle, c'est notamment le cas de Mercedes ou encore de Renault avec sa nouvelle Mégane Scénic.
Oui, toutes ces voitures ont des avantages considérables parce qu'on voit que la révolution du digital qui arrive dans la médecine ou dans d'autres domaines est vraiment dans l'automobile essentielle. Ça rappelle un petit peu le lancement de l'automobile au 19e siècle. On allait dans des domaines qu'on connaissait pas forcément et on découvrait des choses. Ben, c'est la même chose exactement avec le numérique. Je pense à PSA par exemple, qui est dans un système où lorsqu'on va laisser sa voiture dans le parking de la gare, et ben cette voiture peut-être va être utilisée par d'autres personnes qui vont vous payer pour l'utilisation de votre voiture pendant qu'elle stationne.
Effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans la voiture objet de promotion sociale, entre guillemets. Aujourd'hui, on est vraiment dans un nouveau mode de consommation. On va plus d'être dans un mode de partage, on va partager le véhicule. C'est un peu l'ubérisation, entre guillemets, aussi, de l'industrie automobile.
Alors, c'est justement ce qui est difficile à comprendre. Actuellement, c'est impossible pour nous de vous dire oui et de vous dire non. On a une vision d'autopartage qui peut être double. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait très bien, et déjà ça commence maintenant, où des clients achètent des voitures. On le sait par exemple avec des jeunes dans la région du Doubs, ils achètent des voitures en fonction du nombre de copains qui vont payer pour transporter jusqu'à l'université de Besançon par exemple. Donc on est dans un système où effectivement on a une banalisation de la voiture. À côté de ça, la connectivité de l'automobile va renforcer la personnalisation de l'automobile. Lorsque vous avez votre téléphone portable, vous avez des alertes, vous avez des messages, vous avez des choses, vous n'avez absolument pas envie de partager ça avec tout le monde. Donc, on va dans les deux sens, c'est assez intéressant, et on remarque aussi que la voiture, pour les 82% de Français qui l'utilisent tous les jours pour aller travailler, des fois on va travailler la plupart du temps sans être vraiment trop joyeux, cette voiture n'est plus un statut social, et pourtant on voit qu'une voiture sur quatre vendue en France est un crossover SUV. C'est-à-dire que c'est pas un achat rationnel. Si on voulait être rationnel et sans statut social, on prendrait la berline qui a le même moteur, la même plateforme. Là on prend quelque chose de supérieur parce qu'on veut se faire plaisir. Alors on l'achète ou alors on la loue. Vous savez que la location avec option d'achat a augmenté aussi dans l'acquisition de voitures. Donc on voit que tous ces nouveaux modes entraînent des nouveaux modes de consommation et d'utilisation du véhicule.
Alors François Rodier, l'autre grande nouveauté aussi, hein, bien sûr elle existait déjà, c'est le véhicule électrique qui sera très présent dans ce mondial qui commencera à partir de demain. On a franchi un véritable gap psychologique puisqu'aujourd'hui on a des véhicules étant capables d'aller jusqu'à 300 km en autonomie réelle. Ça aussi c'est une vraie nouveauté.
Oui, c'est une vraie nouveauté. Hein. La barrière de l'électrique est en train de changer. Alors le tout électrique commence à devenir extrêmement sérieux à des prix abordables parce que vous avez certes certaines voitures de luxe qui font 400 km, mais à un prix tel que très peu de gens peuvent l'acheter.
Tesla, pour ne pas les citer.
Voilà, pour ne pas les citer. Et puis à côté, vous avez Renault ou Nissan qui font des voitures qui sont abordables et qui maintenant auront une autonomie beaucoup plus grande. L'électrique s'impose aussi dans d'autres modes de motorisation. L'électrique tout seul est une des voies, mais vous avez aussi l'électrique dans ce qu'on appelle l'hybride rechargeable. Alors par rapport à la première génération d'hybride, là on a une voiture électrique que vous mettez sur une prise électrique et qui est aussi un moteur essence. On voit qu'on est en train d'inverser le système et puis progressivement on voit que les moteurs thermiques sont en train de s'améliorer avec des consommations très très basses et tout le monde a un peu de système électrique. Donc l'électrification de la voiture se fait quasiment sur tous les modes de motorisation. On a aussi du gaz qui revient dans les véhicules, du GNV qui va être utilisé avec de l'électrique.
François Rodier, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus ici au Mondial Automobile. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du CCFA, le Comité français des constructeurs automobiles. Et tout de suite, on retrouve Anne Fauquemberg à la Maison de la Radio.
Merci à Kim Kasmi et à vous, François Roudier, d'avoir été l'invité du journal de 22h de France Culture. La météo de votre samedi, les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard sont en vigilance orange aux orages et aux pluies jusqu'à demain matin. Et les températures, elles iront de 9 à 18 degrés partout en France. L'après-midi, il fera de 16 à 21 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 26 autour de la Méditerranée.